écoutons la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Matthieu chapitre 8, c'est après le sermon sur la montagne, des multitudes, il y avait une grande foule, nous dit l'écriture. Mais il s'est passé quelque chose. Matthieu chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Vous voyez au verset premier, une grande foule suit Jésus et un homme qui est en grande difficulté. Lui, il s'est approché de Dieu, et il n'a pas fait que s'approcher, il s'est prosterné. Il y a une grande différence entre suivre Jésus, le suivre ou suivre une église ou suivre un pasteur, et s'approcher du Seigneur. Ce sont des textes qu'on utilise à juste titre pour l'évangélisation, mais je crois qu'il est bon d'apprendre, de réapprendre à s'approcher du Seigneur, car on a tous nos combats. D'ailleurs, je voudrais que vous, peut-être, vous soyez amenés cette semaine à méditer deux psaumes qu'a écrit David. Dans le psaume 13, nous voyons David dans un moment difficile. On a tous des moments difficiles. C'est David qui a écrit cela. Il n'était pas au mieux de sa forme, comme on dit. D'ailleurs, il pose des questions. Il les pose à Dieu. On va y revenir tout à l'heure si on a le temps. Dans le psaume 13, il y a dans ma Bible, le titre de ce psaume, c'est l'épreuve du temps. Parce que le temps, qu'on le veuille ou non, quand les choses traînent, ça peut provoquer des épreuves. Oui ou non? Dans le psaume 13, verset 1er, psaume de David, regardez la question, n'oublions pas, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Oui, c'est grave. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. Je crois que ça bascule là. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je change d'elle. Verset 6, il réagit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Donc il réagit, il demande à Dieu de la clarté, mais Dieu l'accorde. Mais vous voyez quand même au verset 2, une question quand même qui en dit long sur cette difficulté que tous nous pouvons rencontrer. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est ça, c'est le sujet de ce matin. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Regardez au psaume 16. C'est toujours David, là il est bien. Il a certainement, je ne sais pas combien de semaines, de mois, d'années, sépare ces deux psaumes, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous pouvons vivre les mêmes expériences. Au psaume 16, relisez-le avec moi, lisons-le avec moi, s'il vous plaît. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Voyez la différence, dans le psaume 13, il est en difficulté. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Dans le psaume 16, il y a d'abondantes joies devant ta face. Ces difficultés, nous les rencontrons tous. Tous nous rencontrons ces difficultés, ces moments pénibles, parce que l'épreuve est là, parce que le temps fait son travail. Et à des moments, nous cherchons le refuge en Dieu et nous vivons ces choses. D'ailleurs, vous rendez compte, au verset 9 et 10, il est parlé « mon cœur, mon esprit, mon corps et mon âme ». Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Il y a d'abondantes joies devant ta face. Alors, il y a un psaume qui était venu sur mon cœur aussi hier soir, on pourrait le lire. C'est dans le psaume 90, le verset 8. C'est un psaume de Moïse. C'est bien que nous le lisions, ça pourrait être la conclusion de cette méditation. Oui, j'aurais pu le mettre en conclusion, ça c'est sûr. Psaume 90, ça aurait été même mieux, mais ça fait rien, on va le lire. Psaume 90, verset 8. Lorsque un homme cherche Dieu, la face de Dieu peut l'éclairer. La face de Dieu fait son travail, regardez. C'est Moïse qui parle. C'est très, très, très encourageant, même si ça peut nous interpeller. Psaume 90, verset 8. « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Donc, voyez, il y a cette affaire que devant la face de Dieu, certaines de nos fautes doivent apparaître. Vous connaissez tous ce verset dans 2 Chroniques, au chapitre 7. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, il y a Salomon qui prie. Il a besoin de prier, et j'espère que c'est notre cas. Est-ce que vous avez besoin de prier ? Si vous n'avez pas besoin de prier, faites-en une affaire sérieuse. Si vous n'aimez pas prier, si vous ne trouvez pas du temps pour prier, préoccupez-vous-en. Préoccupez-vous-en. Ce n'est pas bon signe du tout. Donc Salomon a été instruit par David, il comprend que certaines choses peuvent se présenter, vous voyez verset 26, 2 Chroniques 6, 26, il y a une prière de Salomon qui indique que voilà ce qui peut se passer quand le ciel sera fermé. 2 Chroniques 6, 26, vous y êtes ? 2 Chroniques, voilà, c'est une prière. C'est important parce que quand le ciel est fermé, ce n'est pas bon signe, croyez-moi. 2 Chroniques 6, 26. Je n'avais pas donné cette référence ? C'est pas possible. Bon. Ça m'étonnerait. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie. Vous voyez, c'est un constat que l'on peut faire. Ça peut arriver que le ciel soit fermé, oui ou non ? Ça peut arriver. Jésus, dans son premier sermon, justement, dans la synagogue de Nazareth, il a fait allusion à la famine, à une grande famine qui était arrivée du temps d'Élie. Et les pharisiens ont été archi vexés parce qu'il a dit « Mais vous rappelez du temps de la grande famine, Élie n'a été envoyé que vers la veuve de Sarepta, donc vers une étrangère. » Et ils ont été furieux. Pourquoi ? Il y avait une grande famine. Mais cette femme, elle a cherché Dieu. C'est sûr. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un comme ça, au hasard. Ce lépreux, on va en reparler, qui est vraiment inconscient de ses problèmes. Ils sont physiques, c'est clair, c'est facile à comprendre. Mais vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a pas que la lèpre physique. Et je ne suis pas du tout sûr que nous sommes toujours conscients des besoins qu'il y a. Et cet homme représente les gens qui ont été touchés par la face du Seigneur et qui s'approchent en prenant même des risques. Donc, quand le ciel est fermé, voyez, qu'il n'y aura pas de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, bon, il y aura la bénédiction. Verset 29. Si un homme, alors vous allez voir que Dieu parle au peuple, mais il parle à l'individu. C'est ça qui est bien, c'est que Dieu peut parler à toute une église et en même temps, il faut que nous comprenions bien que c'est une affaire personnelle. Si un homme, verset 29. Si un homme, virgule, si tout un peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, vous voyez, si un homme ou si tout le peuple, et que chacun, regardez bien, chacun, vous voyez, c'est individuel, même si le corps est archi important. Si que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul Seul tu connais le cœur des enfants, des hommes. Après, vous connaissez tous le chapitre 7, au verset 14, mais c'est peut-être bien de voir la première partie du verset 1er, car quand même, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, mais c'est écrit dont Dieu l'a voulu, quand Salomon eut achevé de prier. Vous savez, il y a des prières, je ne sais pas des fois si on va jusqu'au bout. Est-ce que vous me comprenez ? Lorsqu'il eut achevé de prier, il y a besoin de répandre son cœur devant Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir des prières toutes éclairs, c'est-à-dire je prie, Seigneur, fais-moi grâce. Je pense qu'il y a toutes sortes de prières. Mais il y a des prières, je crois qu'elles ne sont pas complètes. Alors quand il a prié, bien sûr, Dieu, il fait ce qu'il a à faire. Et au verset 14, vous connaissez tous ce verset, c'est peut-être un des versets les plus connus de l'Ancien Testament, de Chroniques 7, verset 14, « Si », donc il y a un impératif, hein. C'est pas comme ça. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alors il y a quatre conditions. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous les abordions succinctement, mais que vraiment nous sachions peut-être un peu mieux ce matin où nous en sommes. Si mon peuple s'humilie, 1, prie, 2, et cherche ma face, et bien sûr, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Donc il y a des conditions pour être exaucé, même si certaines bénédictions Dieu les accorde sans que nous prions, c'est vrai. Il y a des grâces que Dieu peut nous accorder sans que nous les demandions. Mais il y a des grâces que Dieu accorde à ceux qui s'approchent de lui. Je ne dis pas ceux qui vont à l'église. C'est important de se retrouver, c'est important. C'est important la communion fraternelle, c'est important tout ce que l'on vit. Mais mes frères et sœurs, est-ce que comme David dans le psaume 13, nous n'avons pas besoin d'être éclairés ? Vous et moi, d'être éclairés dans un domaine, dans un autre. Jésus, on l'a rappelé par la Sainte Cène, Jésus a donné sa vie pour que le ciel soit ouvert. Amen. Vous êtes d'accord, quand Jésus est mort, le ciel s'est ouvert. Que son nom soit béni. Mais pour que le ciel soit ouvert sur chacune de nos vies, ou au mieux sur une église, ou encore au mieux sur un pays, nous aimerions quand même tous que le ciel soit ouvert sur notre pays. Il faut plus que des prières superficielles. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais Monsieur Gault, moi je suis très sincère. Je ne parle pas de sincérité. Parce que la sincérité, c'est bien avec la parole. Si vous êtes sincère avec ce que vous pensez, ça ne va pas galer, ça ne va pas coller ça. Les prières ne doivent pas être superficielles, légères, superstitieuses, routinières. Est-ce que vous êtes d'accord quand même qu'on peut prier de cette façon ? Vous êtes d'accord ? Ça peut nous arriver de prier par habitude. Ça peut nous arriver de prier parce qu'il faut prier. Oui, c'est un danger, c'est un grand danger que nous devenions religieux. Il faut veiller à cela. Donc Dieu demande, la première chose que Dieu demande, je ne vais pas parler beaucoup sur ce point, Dieu demande un cœur humble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, avant même de prier, comme quoi certaines prières ne serviraient à rien si au préalable je n'ai pas développé un cœur humble, si mon peuple s'humilie. Alors est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire avec moi que c'est une bénédiction d'apprendre à s'humilier ? Vous êtes d'accord ? On est tous d'accord. S'humilier, c'est une bénédiction puisqu'on sait que Dieu fait grâce aux humbles. Et nous pourrions prendre la liste de versets qui corroborent cette pensée. Dieu fait grâce aux hommes. Donc on est tous d'accord, c'est bien de s'humilier. Alors, nous pouvons le faire nous-mêmes, nous pouvons développer cette humilité, puisqu'il est dit quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, nous pouvons le développer. Dieu peut nous humilier aussi. Est-ce que Dieu peut nous humilier ? Oui, par des situations différentes. Il m'est bon d'être humilié, disait David. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, etc. Donc nous sommes là, nous disons Dieu fait grâce aux humbles, c'est la première étape pour que le ciel s'ouvre. Je ne sais pas si le ciel est ouvert sur le pays, je ne sais pas si le ciel est ouvert sur mon église, je ne sais pas si le ciel est ouvert, mais je sais qu'il peut être ouvert sur ta vie, sur ma vie. Oui ou non? Quand vous lisez les textes et que vous les méditez, ça devient clair. Oui, Dieu veut ouvrir le ciel sur un pays, Dieu peut ouvrir le ciel sur une église, sur une maison, et Dieu peut ouvrir le ciel sur une vie. Que son nom soit béni. Ça commence donc par cette humiliation. Alors qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Voilà, on est le 13, je crois, 13 octobre. Qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Attention, vous allez mieux comprendre à la fin cette question. Qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer en moi? Est-ce que vous êtes parfait? Voilà, vous me ressemblez beaucoup. Nous nous ressemblons vraiment. Bon, il n'empêche que même si nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons quand même, d'une manière très honnête, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu me veux à moi? Qu'est-ce que tu nous veux à nous? Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer les choses au niveau régional ou national? Est-ce que c'est possible ?» Oui. Alors écoutez-moi bien, frères et sœurs. Moi, je suis sérieux, je me tiens devant Dieu, vous savez. Je me tiens devant le Seigneur. Et hier soir, hier après-midi, hier matin, je priais et je me disais, mais si j'ai du mal à m'humilier, parce que vous êtes d'accord, je le sais, c'est biblique, mais soyons maintenant pratiques, vraiment pratiques. Si j'ai du mal à m'humilier, si j'ai du mal à m'incliner devant Dieu, je ne parle pas physiquement, si j'ai du mal à comprendre l'humilité quand je sais pertinemment, même si je ne l'ai pas développée, qu'il y a énormément de grâce qui découle de cette vertu. Vous êtes d'accord avec moi? On le sait, Dieu fait grâce aux humbles. Même certains rois qui étaient vraiment en vrac, je pense au roi Manassé, vraiment Dieu l'a humilié comme il fallait, je veux dire, et il s'est tellement humilié que ça a plu à Dieu et Dieu l'a réutilisé, c'est extraordinaire. Dieu fait grâce aux humbles. Si je ne m'humilie pas volontairement, ou si je n'accepte pas que le Seigneur, dans une situation ou dans une autre, m'humilie, vous êtes d'accord avec moi? Je le répète, c'est un travail personnel, c'est également le résultat de situations que Dieu permet, qui ne me plaisent pas toutes peut-être, mais le Seigneur, il sait ce qu'il a à faire. Mais si j'ai du mal à développer cette humilité, si j'ai du mal à m'incliner devant ce grand Dieu, c'est que je ne réalise pas ce que Dieu veut faire ou me donner. On est incapable, nous, de dire, tiens, telle personne, elle est humble, cette personne, elle est orgueilleuse, quoiqu'il y a des fois des comportements révélateurs. C'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas évident de dire, tiens, telle personne, elle est orgueilleuse à 23,8%. Est-ce que c'est possible de le faire? Mais non. Mais en tous les cas, une chose est sûre, parce que des fois on peut la parole de Dieu, vous pouvez l'utiliser pour culpabiliser, la parole de Dieu, vous pouvez l'utiliser, la même parole, pour faire comprendre ce que Dieu veut. Donc si Dieu nous demande de nous humilier, c'est clair, c'est pas pour nous fatiguer. Si Dieu nous demande de nous humilier, c'est qu'on devrait commencer à réaliser, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire au travers de moi? Apprendre à s'humilier. Le lépreux, voyez, la foule, elle suit Jésus, elle est étonnée, bien sûr, elle a entendu ce jeune rabbin qui, pour la première fois sur la montagne, c'était extraordinaire, tout le monde était frappé par la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens y suivaient, mais entre suivre Jésus et puis s'approcher à portée de sa main, de sa face, laissez-moi vous dire qu'il y a quand même un gouffre. Et cet homme, il a été convaincu. Il a été convaincu, il a risqué sa vie, parce que normalement, on n'avait pas le droit de s'approcher à plus d'un jet de pierre. Donc, il aurait pu être lapidé par les gens. Bon, Dieu l'a empêché, bien sûr. Il s'est approché, il a pris ce risque, et il s'est retrouvé, je ne sais pas quel âge il avait, avait-il 30 ans, 40 ans, je ne sais rien. En tous les cas, il s'est retrouvé devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'envions presque, ce lépreux. Pourquoi me caches-tu ta face? David, voyez, c'est David, il est pas bien. Et il pose des questions à Dieu. Alors quand on pose des questions à Dieu, alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est pour pas que vous perdiez du temps. Poser des questions à Dieu, nous en déduisons par des psaumes comme celui que nous venons de lire, que c'est pas tellement méchant. Pourquoi me caches-tu ta face ? Bon, David, il connaît Dieu, David. Mais enfin, bon, il a besoin de le dire. Entre poser des questions à Dieu, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des frères qui sont en difficulté à cause de ce que je vais vous dire. Poser des questions à Dieu, on a besoin. Quand on est dans, comme Joseph, est-ce que Joseph n'aurait pas pu poser des questions à Dieu ? Lorsqu'il a été oublié par les chansons à qui il a rendu service, quelque qu'on le veuille ou non, ne m'oublie pas, quand tu passeras devant ta Pharaon, écoute des femmes à cause, et fais-moi sortir. Et puis il est clairement écrit que les chansons l'a oublié. Il aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, en fait, c'est pas écrit, mais en fait, je suis convaincu. Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu... Quand même, tu m'oublies. Est-ce que Dieu oubliait Joseph ? Bien sûr que non. Mais il n'empêche que même le roi David a eu besoin d'exprimer cette douleur. Mais il n'a pas donné de conseil à Dieu. Alors écoutez-moi bien, je vous le dis, parce que des fois on l'entend dans la prière, des gens qui donnent des conseils au Seigneur. Oui ou non ? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. J'admets le fait que notre souffrance peut nous amener à dire des choses qui ne sont pas trop justes. Vous savez, c'est Job qui va dire, mais c'est la douleur, ou même Anne, c'est la douleur qui m'a fait parler comme ça. On a droit à dire des âneries, excusez-moi. Mais entre dire des choses qui sont le résultat de notre douleur et commencer à donner des conseils à Dieu, tu vois, Seigneur, tu devrais faire comme ça. Ça marcherait. Non, mais je caricature un peu. Mais quand même, des fois, on entend des chrétiens qui demandent, qui conseillent Dieu. Mes frères et sœurs, l'humilité fera que nous n'aurons pas besoin de donner des conseils à Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il doit faire quelque chose. D'une manière personnelle, d'une manière familiale, d'une manière collective, d'une manière corporative, etc., ou nationale. Il sait, le Seigneur, ce qu'il doit faire. Donc, c'est une chose de prier, s'humilier, bon, je m'arrête là. C'est une chose de prier, puisque la prière, la vraie prière, doit suivre cette humilité. Même si je peux dire, Seigneur, pourquoi me caches-tu ta face ? Parce qu'il a besoin d'être éclairé. Il y a des moments où on a besoin d'être éclairé. C'est une chose de prier, c'est une chose de prier avec le cœur. L'Église doit vraiment comprendre ce qu'est la prière. Ma maison est une maison de prière. Il y a un combat dans les cieux que nous ne discernons pas. C'est l'autre jour, notre sœur qui nous racontait qu'elle a été dans une église en Narbonne, c'est ça ? Et qu'elle a entendu le témoignage d'un ex-sataniste. Écoutez bien, tu me reprends si je me trompe. Un ex-sataniste qui se retrouvait le matin à 5h, ou je ne sais plus, c'est ça ? Avec des satanistes, et pour prier tous ensemble pour que les églises soient détruites, pour que les pasteurs divorcent, pour que les familles divorcent, pour que les familles éclatent, etc. Tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il y en a qui ont compris le combat spirituel, et c'est vrai, c'est triste à dire, mais cette semaine, j'ai appris encore qu'un pasteur avait tout balancé, tout bazardé, tout. Femmes, enfants, église. Ça nous fait de la peine. C'est pour ça qu'il y a des paroles dans la Bible qui nous sont données pour que nous nous arrêtions, comme on le fait ce matin, on l'a fait pendant la Sainte Cène. Mais là, on le fait d'une manière consciencieuse. Je dois apprendre à m'humilier, je vais m'humilier. Ce que Dieu dit, je vais le croire. Vous savez, ça nous est arrivé déjà, Monsieur Gault, vous avez prêché sur l'enfer, mais vous croyez que Dieu est assez... Dieu nous aime, l'enfer n'existe pas. Est-ce que c'est de l'humilité, ça ? Bien sûr que non. Apprendre à prier avec le cœur, une prière qui nous amènera, comme ce lépreux, à chercher la face du Seigneur. Ce lépreux, il avait besoin. Et je te pose la question, je nous pose cette question, est-ce que vraiment, au-delà de l'Église, au-delà de la dénomination, de la religion, etc., dans laquelle nous sommes et qui nous convient, est-ce que vraiment, il y a quelqu'un au milieu de nous, et il faut que vous nous répondiez, moi le premier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui ? Il y a un combat, tu me caches ta face, je ne sais pas ce qui se passe. Alors que quand même, je sais aussi qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Et pourquoi cette connexion ne se fait pas ? S'il cherche ma face, s'il prie, s'il cherche ma face, ça veut quand même dire que s'il faut chercher sa face, c'est qu'on a perdu sa face. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on n'est plus en face. Si Dieu dit prier, bon, prier, oui, mais il faut que cette prière vraie, une vraie prière, bien sûr qu'il y a des prières normales, entre guillemets, quand moi, tous les jours, je prie pour le président de la République, je prie pour l'Assemblée, je prie pour mon épouse, pour mes enfants, je prie pour le maire de Toulouse. Il y a des prières que l'on doit faire. Pourquoi? Parce que c'est demandé, oui ou non? Mais après, il y a ces prières-là, quand il dit prier, supplier, il y a bien plusieurs formes de prières. Mais je te pose la question, quelles sont vraiment tes prières? Est-ce que tu peux dire ce matin, oui, j'aspire à chercher la face du Seigneur comme ce lépreux, moi aussi je suis en vrac, moi aussi je ne suis peut-être pas lépreux dehors, mais je le suis peut-être un peu en dedans. Alors vous allez me dire, oui, tu nous culpabilises. Non! Je suis en train de vous dire que Dieu a des choses à faire avec nous. Qu'est-ce que c'est pour nous, la communion avec Dieu, au fait? Si vous deviez mettre une note, je ne sais pas si c'est bien ce que je dis, mais bon, si on devait mettre une note sur notre communion avec Dieu, sur 10, vous savez, quand vous allez à l'hôpital, que vous êtes malade, on vous dit, dites-nous sur l'échelle de 10, quelle est la douleur que vous ressentez? Bon, alors les gens disent, ben ouais, j'ai 3, j'ai pas trop mal. Vous voyez, bon, on l'entend ça. Hein? Mais soyons sérieux, si, je ne sais pas si cette question elle tient debout, mais quand même, c'est pour nous aider à dire, mais au fait, où j'en suis vraiment de cette communion avec Dieu? Est-ce que c'est vrai que je veux cette communion avec Dieu? On a chanté, nul n'est comme toi. Dieu a vu comment on l'a chanté. Je pensais, en préparant cette prédication, je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi sur la terre. Pour exprimer que notre bien le plus précieux, c'est la présence de Dieu. Mais dans la réalité, car Dieu est souverain, est-ce que Dieu peut nous reprendre certaines choses? Est-ce que Dieu peut nous donner certaines choses? Oui, vous le savez, Dieu a donné, Dieu a repris, bon. Dieu peut nous reprendre certaines choses dans notre vie, ça, c'est comme ça, c'est la vie. Mais que nous ne perdions pas notre communion avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles ont perdu quelque chose, ou que Dieu peut reprendre quelque chose, elles en perdent la communion. Et mes frères et sœurs, vous savez, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des hommes avec un cœur, Dieu nous a créés comme ça, et il y a vraiment des bénédictions que Dieu peut donner. C'est pour ça qu'il dit, si mon peuple s'humilie, nous, des fois, nous cherchons, soyons honnêtes, est-ce que des fois quand même, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais est-ce que des fois nous ne cherchons pas chez l'autre ce que seul Dieu peut nous donner? Il y a des choses que vos frères peuvent vous donner, oui ou non? Il y a des choses que votre conjoint, votre mari, votre femme peut vous donner, d'accord? Il y a des choses que vos enfants peuvent vous donner ou que vous pouvez donner à vos enfants. On le sait ça, il y a des choses que les autres peuvent nous donner, mais il y a des choses que seul Dieu peut nous donner. Et c'est vraiment un travers d'aller chercher auprès des autres ce que Dieu seul peut nous donner. La communion dans un couple, c'est merveilleux, la communion dans un couple. Mais ce n'est pas parce que dans un couple, il y a une réelle communion que ça va régler votre communion avec Dieu, etc. Les enfants protégés, c'est beau des enfants qui sont protégés dans une maison, oui ou non? Quand des enfants se sentent protégés, la protection dans une maison, voyez, on pourrait faire une longue liste de choses qui viennent des autres. Quand des enfants se sentent protégés parce que les parents sont protecteurs, etc. C'est beau tout ça. On pourrait faire une longue liste de choses que Dieu nous demande que nous nous occupions les uns les autres. C'est pour ça qu'il est dit souvent, aimez-vous les uns les autres, etc. Mais mes frères et sœurs, la communion avec Dieu, où j'en suis? Oui, quelle est la note que je me donne ce matin sur 10? Quelle est la note de cette communion? De cette communion. Vous savez, c'est bien les chants. Vous aimez chanter? Oui, moi j'aime chanter vraiment. C'est bien la communion avec les frères, c'est bien? Oui. Mais Dieu voudrait que tout ce qu'on fait découle de la communion qu'on a avec lui, tout. Nous voulons que nos chants soient magnifiques. Moi j'aime, mais des fois je me tais, des fois je ne chante pas, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour vous écouter chanter. C'est beau, et bon, on entend des fois plus les femmes que les hommes, bon, tant pis. C'est pas beau des chrétiens qui chantent? C'est quand même, enfin Dieu entend tout ça, sur la surface de la terre, il y a des gens qui chantent, en Martinique, en Belgique, en Suisse. Et tout ça, ça monte vers Dieu comme un encens, je l'espère. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que si notre communion avec Dieu est la communion qu'il demande, je pense que nos chants seront magnifiques, nos prières seront agréables, nos louanges l'atteindront. Parce que franchement, imaginons-nous, vous savez que je vis dans le péché, je fais des louanges parce que je ne sais pas m'exprimer. Est-ce que ces louanges montent vers Dieu ? Prenez compte, si on est là, si on s'applique, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, etc. Et qu'en même temps, vous appreniez que la personne, elle vit dans le péché, vous dites, mais ça, ces louanges n'atteindront jamais le cœur du Seigneur. C'est certain. On le voit plusieurs fois dans la Bible, ça nous fait même de la peine quand Dieu dit, mais quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas, il y a des chants que Dieu n'écoute pas, même s'ils sont beaux. Et c'est pour ça qu'une véritable communion fera que nos chants, nos prières, nos louanges atteindront le cœur du Seigneur. Si je cherche la face, ensemble on peut le faire, on devrait vraiment quand même tous se poser la question, mais c'est vrai, où j'en suis, est-ce que ma vie n'est pas sur le minimum du minimum, ou est-ce que j'aspire vraiment à ce que le ciel s'ouvre? Est-ce que vous avez envie que vos prières soient exaucées? Là, devant la face du Seigneur, vous avez vu quand David, vous avez vu les deux psaumes, c'est intéressant. Pourquoi me caches-tu ta face? Il y a d'abondantes joies devant ta face. C'est quand même révélateur de nos combats. Est-ce que nous acceptons le fait que parfois nous oublions la communion avec Dieu? Est-ce que je suis trop sévère? Est-ce que c'est mal placé de dire à des chrétiens que parfois nous avons essayé de remplacer la communion? Est-ce que Dieu peut être remplacé? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent remplacer la communion avec Dieu? Je pense que certains chrétiens pourraient dire oui. Ça me fait mal de le dire, mais je pense que des chrétiens pourraient dire oui, j'ai remplacé l'irremplaçable. J'ai cherché la distraction, et je suis pour en plus la détente. Mais qu'est-ce qui a remplacé la communion avec Dieu? Qu'est-ce qui a fait ça? Si on remplace la communion avec Dieu, on va devenir tous des religieux, tous, des chrétiens d'apparence. Et Dieu attend, c'est pour ça qu'on pourrait terminer en priant vraiment pour dire, mais Seigneur, mais redonne-moi cette faim, cette soif, cette détermination. Je vais terminer. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais terminer pour qu'on puisse prier. Je vais vous poser une question. Je me la suis posée hier pour moi. Je me la pose consciencieusement. Vous savez, des fois, je pose des questions comme ça, d'abondance. Mais il y a des questions quand même qui méritent d'être posées. Mes frères et sœurs, si nous cherchions la face de Dieu, écoutez-moi bien, comme ce lépreux qui était en besoin, qui avait... si nous cherchions, je ne dis pas si nous prions, je parle de chercher sa face. Si nous cherchions la face de Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que nous quand même nous serions touchés vraiment? Parce que quand tu entends des chrétiens dire « Oui, moi je prie, ça ne sert à rien. » Vous voyez, les gens, ils ont besoin de parler. Moi, je voyais, avant, j'étais un petit peu plus raide. Moi, maintenant, je comprends. Je comprends un peu plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire si ça ne sert à rien de prier? Ouais, je prie, ça fait des années que je prie, ouais, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de demander « Seigneur, montre-moi mes fautes cachées à la lumière de ta face. » Pourquoi tu ne m'exauces pas? Mais si nous cherchons sa face comme nous venons de le développer pendant une demi-heure, si nous cherchons sa face, qu'est-ce qui se passerait vraiment dans ma vie, dans ta vie? Est-ce que vous ne croyez pas que le Saint-Esprit pourrait guérir? Guérir, nous guérir? Peut-être de nos insomnies? Est-ce que ça peut arriver qu'un problème vous prenne la tête, comme on dit? Oui ou non? Et que vous ne dormiez pas? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Est-ce que le fait de chercher la face de Dieu pourrait m'éclairer? Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Oula, je me suis trompé. Pardon. 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 Tu m'as montré ça. Pardon. Seigneur, tu me montres ma dureté. Est-ce que des fois, on n'est pas dur? Oui ou non? Cette semaine, on a accueilli de la famille et je me suis surpris vraiment à avoir vraiment de la compassion pour des voisins que l'on a invités parce que, comme on est retourné à Groyer, on a besoin de retrouver ces gens, d'avoir de la compassion. Seigneur, j'ai besoin de compassion. Guéris-moi de mon amertume. Mais non, moi, je n'ai pas d'amertume. De mon indifférence, etc., etc. J'ai mis plein de trucs. Guéris-moi, Seigneur, de ces ennuis. Je m'ennuie toujours. Je m'ennuie, c'est pour ça que comme je m'ennuie, je cherche à compenser cet ennui par ceci, par cela. Moi, je crois que lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous sommes guéris de ces ennuis. Je le crois vraiment. Si nous cherchons la face de Dieu, si le Seigneur nous demande de chercher sa face, c'est pour qu'on la trouve. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous le voyez. Oui ou non ? Si Dieu te dit ce matin, même si je ne vous le dis peut-être pas comme je devrais le dire, peut-être, vous savez, se prêcher, c'est un combat aussi. Mais si Dieu te dit, humilie-toi, si tu savais le bien de t'humilier, prie, mais prie avec ton cœur, je ne veux plus de tes prières toutes faites, elles m'ennuient. Est-ce que Dieu pourrait nous le dire ? Oui. Je veux ton cœur, je veux que tu cherches ma face parce que tu t'es détourné de ma face. Il te faut te retrouver à mes pieds. Là, à mes pieds, comme ce lépreux, qui méritait la lapidation à cause de cette détermination. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu la face de Jésus-Christ et ses mains se poser sur lui. Et si nous cherchons la face du Seigneur, même si nous sommes dans le questionnement parce que nous avons une épreuve liée au temps ou à autre chose, qu'importe, nous pouvons en arriver à tomber dans le psaume 16 et dire, Seigneur, oui, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit seront bénis. Parce qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Et si je ne trouve plus ces joies devant ta face, ben c'est qu'il y a un truc qui a cassé. Il ne faut pas que nous nous contentions juste de dire, oh ben, tu sais, moi, avant ma conversion, j'étais un grand buveur. Je bois moins. J'étais un grand menteur. J'étais un grand, je ne sais pas, bagarreur. Je me bagarre. Moins. Je tape moins ma femme. Mes frères et sœurs, j'espère que vous n'en êtes pas là. Même si je l'ai dit avec un brin d'humour, mes frères et sœurs, je crois que les vrais chrétiens, il y a longtemps, qu'ils ont réglé ces affaires aussi grossières. Je parle de choses plus précises. Si je cherche la face de Dieu, c'est obligé. Si je cherche la face de Dieu, je vais peaufiner certaines choses. Tiens, comment je respecte ma femme ? Est-ce qu'un homme qui a cherché la face de Dieu va respecter sa femme ? Est-ce qu'une femme qui cherche la face de Dieu va respecter son mari ? Ben oui. Oui ou non ? Si je cherche ta face, moi, le premier, toi, la première, toi, le premier. Si tu cherches sa face, tu n'attends pas que les autres le fassent, hein, moi je te le dis. Mais si tu cherches la face de Dieu, tu la trouveras. C'est impossible que quelqu'un se présente un jour devant Dieu et qu'il lui dise, tu sais Seigneur, j'ai cherché ta face, mais tu sais, je ne l'ai pas trouvée. Ça ne se présentera pas, bien sûr. Si vous cherchez la face de Dieu, si tu cherches la face de Dieu, tu la trouveras. Même si tu passes un moment difficile, pourquoi me caches-tu ta face ? Ça m'ennuie. Eh bien, plongeons-nous dans le psaume 16. Plongeons-nous dans ce psaume. Et regardez les bénédictions qui sont liées même au corps, à l'âme, à l'esprit et au cœur. Alléluia.